c'est la douleur chez le nouveau-né Axel qui est le sujet de la une aujourd'hui.
Que ressentent les bébés? Comment perçoivent-ils les douleurs et les actes médicaux? Ces questions-là ont beaucoup évolué depuis les années 80 où elles ne se posaient tout simplement pas. Les nouveau-nés étaient jugés trop immatures pour ressentir la douleur. Heureusement, les choses ont beaucoup changé et elles continuent de changer. Cette semaine, une étude menée par l'université d'Oxford montre que le ressenti de la douleur chez les tout-petits pourrait être plus important que chez les adultes. Et pour en parler et pour comprendre, on accueille Daniel Hannequin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez fondé le Centre de la douleur et de la migraine infantile à l'hôpital Trousseau, c'était en 93, et vous l'avez dirigé pendant 32 ans. Alors, cette idée que le bébé puisse ressentir la douleur comme un adulte, voire un peu plus, comme on va le voir ici, elle date de quand à peu près?
Eh bien, c'est vrai qu'on part de très loin, parce que ça démarre, la connaissance, que les médecins réalisent que la douleur existe, est très prégnante hein, chez les jeunes enfants, les prématurés et les bébés. C'est la fin des années 80.
Incroyable.
Parce que en effet, on s'est permis, sans beaucoup d'état d'âme, de faire des interventions, de faire toute une série d'actes invasifs, sans antalgique, parce qu'en effet, on voulait croire que les enfants ne pouvaient pas ressentir la douleur.
On n'avait pas besoin de justification scientifique avant les années 80 pour se dire ils ont pas mal.
Bah, en plus, c'est vrai qu'il y avait une évidence clinique. Une évidence clinique qui fait que quand on fait des piqûres à un enfant, on voit qu'il a tous les signes habituels. Il a le faciès, il retire ses membres. Enfin, voilà. Et les grilles de la douleur, d'ailleurs, vont, chez les petits, c'est des grilles d'observation comportementale. On va utiliser ces signes. Donc, bien sûr qu'on avait ces éléments-là. Mais sauf que, en effet, alors, aussi le fait qu'on n'avait pas, on pensait ne pas avoir de moyens, on avait l'histoire des morphiniques était, ça faisait peur, on pouvait pas l'utiliser. Donc vous voyez, c'est une forme de déni, mais qui était liée aussi au manque d'issue thérapeutique.
Et les choses en 30 ans ont beaucoup changé. Et là, je crois que c'est une des premières fois qu'on va voir en imagerie dans le cerveau d'un bébé pour voir quand il a mal ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on voit de plus alors avec cette étude-là de l'université d'Oxford?
Alors donc, en effet, là, ils ont montré hein, sur une dizaine d'IRM fonctionnels. Donc là, c'est des IRM un peu... Ouais, on voit les zones cérébrales du cortex qui s'allume, enfin qui vont, ça veut dire qu'elle marche, elle fonctionne, ça veut dire que
et ça, c'est les zones de la douleur, c'est les zones de la douleur.
Et en effet, donc là ils ont montré dans un en 2015 que c'était en effet les zones de la douleur, c'est les mêmes que l'adulte, hein, ils ont fait la même méthodologie. Et là ils montrent que ce sont les zones du cerveau qui modulent la douleur, c'est-à-dire que la modulation ça va dans les deux sens, soit ça augmente, soit ça inhibe la douleur. Et c'est vrai que on sait quand même cliniquement, à partir des études sur l'animal, et puis des études cliniques, qu'il y a plutôt une inhibition des mécanismes inhibiteurs. Donc, vous voyez, à la fin de course, ça veut dire qu'il y a une accentuation de ces phénomènes.
Alors, désolé de vous poser la question, mais comment se passent ces expériences-là qui amènent à ces résultats pour le bébé?
Alors, c'est sûr que, quand on voit un peu la méthodologie,
ça laisse perplexe, quand même, non?
Moi, je me suis posé des questions. Alors, c'est vrai que d'un côté, c'est un plus, ça augmente la connaissance, ces études-là. Mais néanmoins, c'est pas évident. Une dizaine de nouveau-nés à terme qui sont pas malades, donc on demandait rien à personne, et on les met dans une IRM avec un bruit d'enfer. Certes, on leur a mis des protections, pour le bruit, hein, voilà. Puis en plus, ils sont dans un matelas en pleine contention. On leur fait des stimulations qui ne sont pas douloureuses, mais qui sont quand même de la douleur. Enfin voilà, on est quand même à la frontière. Bon, voilà.
Ce ne sont pas des cobayes quand même. Les parents ont accepté d'être volontaires.
Bien sûr, ils ont respecté.
Enfin, les pauvres bébés, on leur a pas demandé leur avis pour le coup.
Mais quand même, moi je me dis, bon, voilà.
Éthiquement, c'est un petit peu léger.
Ça pose question. Je ne sais pas si Dr. Kuhn est
d'accord avec moi. Un mot sur la méthode, parce que c'est vrai qu'elle est quand même un peu troublante, même si elle est intéressante d'un point de vue de la recherche. Mais...
Oui, c'est toujours difficile d'évaluer la douleur, surtout quand c'est une étude où on crée quelque chose qui ressemble à la douleur pour l'évaluer. Donc je partage un peu les remarques. Maintenant, la recherche et la... Elle est nécessaire aussi, et l'observation en situation de soins standard où on ne rajoute pas des choses au bébé est peut-être la meilleure approche, en tout cas, parce que éthiquement, on ne va pas rajouter des stimulations supplémentaires au bébé.
Alors, Daniel Hannequin, si j'ai bien compris les conclusions de ces chercheurs, on est sûr que les bébés ressentent la douleur comme les adultes, et peut-être même différemment, voire un peu plus. Ils vont jusque-là quand même dans ce papier.
C'est ce que vous disiez avec l'inhibition de l'inhibition, finalement, voilà. C'est ça.
Alors, on a tout un faisceau d'éléments, en effet, qui vont dans ce sens. Mais il faut quand même être clair, on n'aura jamais accès à la perception de la douleur des bébés, ou alors ou des gens qui n'ont pas, oui, qui sont dans le coma, etc. On a toute une série d'éléments, on a le comportement, le faciès, etc. On a, alors, l'IRM, tout ce qui est, ou même les électroencéphalogrammes ou des choses un peu sophistiquées, on peut avoir des reflets de ce qui se passe au niveau du cerveau, mais est-ce que ça veut, la perception, c'est autre chose. Il y a toujours un grand décalage, hein, entre les signes électriques, les signes d'imagerie et la réalité clinique. On sait qu'il y a des grands, dans les deux sens, on peut avoir des énormes douleurs avec rien au niveau du cerveau, au niveau des signaux qui sont émis, et inversement, toute une série de choses, on dit, il doit avoir tellement, et le patient nous dit qu'il a pas mal. Vous voyez, il y a aussi quand même tous ces, ça c'est la grande complexité de la douleur.
À partir de quand, dans le développement, on considère aujourd'hui que le système nerveux est capable de transmettre, on va pas dire un ressenti, mais des signaux liés à la douleur?
Alors, nous, on dit, hein, en effet, que c'est les faisceaux thalamo-corticaux, c'est-à-dire que le thalamus est là que vont tous les influx douloureux et d'autres influx, et quand ils vont être reliés au cortex, qu'on va parler de douleur, que de perception de la douleur. Il peut y avoir des réactions de retrait, en effet, un peu réflexe, mais en tout cas, la mentalisation, la conscientisation est autre chose. Et on va parler de douleur, pour nous, à partir de ces 24e semaine.
Pierre Kuhn.
Oui, je confirme tout à fait, parce que des travaux justement de la même équipe ont montré que les aires qui s'activent chez l'adulte en cas de stimulation douloureuse peuvent s'activer chez les bébés prématurés à partir de 25 semaines. Et donc on estime, par extrapolation, que c'est une perception consciente de la douleur par rapport à ce qu'on connaît chez l'adulte. Donc je suis tout à fait d'accord avec ces données-là. Il faut que les relais thalamo-corticaux soient en place pour faire le relais vers les structures de la conscience.
Merci beaucoup en tout cas Daniel Hannequin d'être venu ici. Si vous souhaitez rester pour parler des enfants prématurés, eh bien vous êtes le bienvenu puisque c'est le dossier de l'émission dans un instant avec notre invité Pierre Kuhn. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'histoire géologique de la Grande-Bretagne en passe d'être réécrite. Les scientifiques pensaient depuis des siècles que le bloc terrestre comprenant l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse a été créé par la fusion de deux blocs insulaires il y a 400 millions d'années, la Laurentia et la Valonia. Mais une équipe de Plymouth propose aujourd'hui qu'un troisième bloc ait joué un rôle dans ce billard géologique, l'Armorica, qui comprend justement l'actuelle France. Il y aurait, selon ces chercheurs, des liens terrestres entre la France et l'Angleterre bien plus forts que ceux qui avaient été estimé jusqu'à maintenant. La NASA lance un laser en orbite pour mesurer finement la fonte des glaces. C'est la technologie laser la plus avancée jamais mise en orbite qui a été lancée samedi et dont le défi est de mesurer l'ampleur de la fonte des glaces sur notre planète. La fonte des glaces en Antarctique au Groenland va pouvoir être estimée à 4 mm près. Le but est bien sûr de suivre les effets du réchauffement et d'anticiper au maximum la montée des eaux. Et puis de grands changements à venir dans la recherche au niveau européen. 11 agences de financement ont annoncé la semaine dernière qu'elles souhaitaient changer radicalement leurs règles de publication. Après le 1er janvier 2020, les résultats des recherches financées par l'ANR, par exemple, ou le Conseil européen de la recherche, devront obligatoirement être publiés dans des revues en accès libre, c'est-à-dire en lecture gratuite. Une annonce qui a déclenché de vives réactions parmi les chercheurs, très divisés visiblement sur le sujet.